Les informations de Jacques Moulinant.
Il n'y a aucun conflit entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Déclaration ce lundi à Kinshasa du ministre ougandais des Affaires étrangères au sujet de la présence des militaires ougandais tout au long de la frontière entre les deux pays. Le ministère du budget et les autorités provinciales s'harmonisent sur la retenue à la source des 40% des recettes provinciales. Une rencontre à ce sujet a eu lieu ce lundi. Le budget 2008 a aussi été évoqué lors de la rencontre. Deux enfants décédés parmi les cinq de la même famille victimes d'une intoxication alimentaire à Lubumbashi, au Katanga. Ces enfants auraient consommé des beignets préparés par leur mère. Les détails dans cette édition du Journal Parlé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Arrivé ce matin à Kinshasa, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa, dit être venu pour renforcer les relations bilatérales entre son pays, l'Ouganda, et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, au sujet de la présence signalée des militaires ougandais le long de la frontière entre les deux pays, le ministre ougandais parle d'un malentendu. Il n'y a aucun conflit entre les deux pays. On l'écoute au micro de René Capita.
C'est juste pour protéger notre territoire afin d'éviter les conflits frontaliers.
Le porte-parole de l'armée ougandaise a déclaré que la RDC menace l'Ouganda. Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire du pétrole dans le lac Albert?
Non, à mon avis, il s'agit d'un malentendu, puisque quelqu'un a été tué non loin de là. Nous sommes là juste pour résoudre ce problème.
Qu'attendez-vous du gouvernement congolais pour éviter des problèmes d'incidents entre les deux pays?
Je souhaite que nos deux pays vont renforcer davantage leurs relations et resserrer leurs liens de coopération afin de prévenir ce genre de problèmes à l'avenir. C'est la meilleure approche, à mon avis. Nos deux pays devront ensemble recourir aux voies diplomatiques et aux opérations conjointes pour effectivement mettre fin à cet état des choses.
Au nord Kivu, la population de Nyabiondo, à 100 km de Goma, dans le territoire de Masisi, vit dans une psychose permanente de l'insécurité. Une psychose due à la présence de multiples groupes armés actifs dans ce milieu, entre autres les FDLR. Cette population dit craindre aussi la circulation incontrôlée des armes détenues par les troupes de Laurent Kunda qui occupent une partie du territoire de Masisi. Selon le chef de secteur de Nyabiondo, le pouvoir de l'État ne se fait pas sentir. Seuls les hommes en armes font la loi. Sur 10 personnes qui passent, 7 sont armées. Et difficile donc d'identifier les civils aux combattants, a-t-il souligné. Tous les détails avec Denise Loukesso.
Selon lui, sur 10 personnes qui passent, 7 sont armées. Difficile donc d'identifier les civils aux combattants. La population se plaint d'être obligée de vivre avec ces hommes armés. Certaines personnes que nous avons rencontrées sur place se disent abandonnées. À Nyabiondo, l'économie est détenue à 70% par les FDLR qui, en plus, ne payent pas de taxes selon les autorités locales. Les mêmes autorités ajoutent que cette situation provoque d'autres problèmes administratifs pour leur secteur. Lors de son point de presse tenu à Goma samedi dernier, le chef d'état-major de la force terrestre, le général Amissi, s'est prononcé sur ce sujet. Il a promis que des stratégies allaient être mises en place avec les unités intégrées pour sécuriser cette zone sensible. En attendant, la population de Nyabiondo demande aux autorités du Nord Kivu de démilitariser cette contrée de la province. Goma, Denise Louquet sur Radio Okapi.
Restons dans la région du Nord Kivu pour vous signaler que le chef de localité de Nyamilima a été abattu cet après-midi dans son bureau. Selon des sources administratives et médicales sur place, Muzuna Rumba a été victime d'une attaque attribuée aux combattants Hutu rwandais, les FDLR. Un échange de tirs avait aussitôt éclaté entre ses assaillants et les éléments de la brigade Bravo Mixi qui étaient intervenus. Durant tout l'après-midi, les habitants de Nyamilima sont restés enfermés dans leur maison. Le bilan global de ces affrontements n'est pas encore connu, mais pour le commandant adjoint de la brigade Bravo, un de ses éléments a été touché à la tête et est interné à l'hôpital de Nyamilima. Toujours à l'est du pays, suite ce lundi du procès de Serge Maïché, journaliste de Radio Okapi, abattu à Bukavu, aujourd'hui 2 mois, le 13 juin dernier. L'audition de ce lundi consistait à la réplique des avocats des présumés assassins sur les argumentations présentées vendredi dernier par l'accusation. Ces avocats sollicitent des circonstances atténuantes aux présumés assassins, estimant que ces derniers avaient agi sous l'effet de la drogue. Le point avec Jean Kassami.
Le collectif des avocats de Serge Mouima et Alain Moulimbi ne croit pas que le véritable assassin de Serge Maïché soit ceux qui ont avoué le crime. Selon ce collectif, tous ces aveux sont complaisants et le procès n'est rien d'autre qu'une pièce de théâtre. Par ailleurs, la défense des présumés assassins ne doute pas de l'implication de ses clients dans ce meurtre étant donné que la carte SIM du défunt avait été retrouvée entre leurs mains. Selon eux, les aveux de Freddy Bissimwa et Mastakila Rwezangabo sont sincères. Néanmoins, la défense de ces derniers sollicite des circonstances atténuantes, estimant que leurs clients ont agi sous l'effet de la drogue. Pour ce qui concerne les autres prévenus, poursuivis pour association de malfaiteurs, leur conseil a plaidé pour l'acquittement. Le procès se poursuit et le tribunal n'est pas encore en mesure d'annoncer le jour que le prononcé du jugement va tomber. De Bukavu, Jean Kassami pour Radio Okapi.
La question de la retenue à la source des 40% des recettes aux provinces au centre de la rencontre ce lundi à Kinshasa entre le ministre congolais du budget et le gouverneur de province ainsi que le président des assemblées provinciales. Au cours de la réunion de ce jour, le budget 2008 a aussi été évoqué, comme l'a indiqué à la presse le doyen des présidents des assemblées provinciales au sortir de la réunion. Kimasi Matuiku est au micro de Nazaire Koko.
Le 2008, nous avons besoin d'une orientation nationale pour confectionner les budgets en province. À ce sujet, des réflexions sont mises en place. D'ici quelques jours, nous reviendrons pour pouvoir commencer la réflexion. On a parlé des 40%. Le gouvernement central dit que les 40% ne sont pas discutables parce que c'est constitutionnel. Mais vu la difficulté de chevaucher entre deux lois, l'ancienne et la nouvelle, il s'entend que beaucoup de réflexions doivent avoir lieu avant l'exécution pure et simple des 40%.
En septembre, la rétrocession ne sera pas effective.
Il n'est pas dit. Il est dit ceci. Le ministre nous invite le 20 août pour venir matérialiser dans une discussion technique l'application de ces 40%.
Pour rappel, la réunion de juin dernier entre les deux parties avait fixé les deux buts de cette rétrocession au mois de septembre prochain. Le prix du ciment gris n'a toujours pas baissé. Ce lundi, dans les quelques dépôts de Kinshasa qui avaient ouvert, un sac se vendait encore à 20 dollars. Alors que la semaine dernière, le ministre de l'économie fixait à 10,5 dollars le sac. Une décision qui devait entrer en vigueur ce lundi. Sur terrain, le reporter de Radio Capi a constaté qu'un grand nombre de dépôts est resté fermé. Les vendeurs ont peur d'être interpellés par les inspecteurs du ministère de l'économie déployés à travers toute la ville pour faire respecter la loi. Pour les quelques détaillants contactés, vendre au prix du gouvernement représente un manque à gagner. Selon eux, ils s'étaient ravitaillés pendant que les prix sur le marché était en hausse, d'où ils ne veulent donc pas perdre. Ils recommandent que l'autorité adopte un prix intermédiaire afin de leur permettre d'écouler leurs produits. Au Maniema, hausse des prix des denrées alimentaires à Punia, localité située à plus de 250 km de Kindu. Une situation due, selon les autorités de la cité, à l'arrivée massive des personnes communément appelées plongeurs en provenance des deux Kassai, du Bandundu et de la province orientale. Ces derniers sont venus exploiter les minerais tels que la cassitérite, le coltan, l'or et les diamants à la rivière Oulindi. Laurent Kapulumputu, l'administrateur de Punia, est joint au téléphone par Gabriel Ouaminga.
Pour le moment, nous avons remarqué une légère augmentation des prix sur certains articles au marché.
Par exemple,
les denrées alimentaires, parce qu'ils achètent les denrées pour aller manger en brousse.
Ils achètent en grande quantité.
Oui, parce que quelqu'un qui vous achète, par exemple, 200 gobelets de riz, c'est quand même... même de l'influence. Hein. Une des conséquences visibles qui a ces répercussions positives. Mais à moins, nous allons nous impliquer pour sensibiliser la population qu'on puisse rabattre le prix.
Pour les opérateurs économiques de Punia, la présence des plongeurs a plutôt doublé la production minière sur le marché. C'est un gain pour le territoire, comme nous explique Belmondo Kantetula, responsable des exploitants miniers de Punia, joint au téléphone toujours par Gabriel Ouaminga.
La production a augmenté car ces gens arrivent du jour au jour. Le tonnage des 5 à 6 que j'ai réalisé par semaine est passé de 8 à 8 tonnes et demi. Je constate que la production a augmenté. Pour moi, c'est la grande joie car je souhaite que ces gens viennent nombreux. Vous savez que notre province est encore vierge. Si nous avons cette production, notre économie sera aussi prospère. Il y aura circulation monétaire et nous qui achetons allons acheter beaucoup de marchandises.
5 enfants de la même famille victimes d'une intoxication alimentaire. Cela se passe à Lubumbashi, plus précisément dans la commune de Kapemba. 2 d'entre eux sont morts et les 3 autres poursuivent des soins à l'hôpital Gécamines Sud. La mère des victimes indique que ses enfants se sont sentis mal après avoir mangé des beignets qu'elle leur avait préparés le dimanche matin. Le point avec Donatine Bouge.
La famille habite le quartier Kilobelobé dans la banlieue sud-est de Lubumbashi. D'après le docteur Boussingi de l'hôpital de la Gécamines où sont admis les 3 survivants, la mère des victimes dit ne rien comprendre. Ce dimanche matin, elle a préparé des beignets sur base de la farine des froments et d'autres ingrédients achetés au marché central. Quelques minutes seulement après avoir consommé ces beignets, tous les enfants avaient le vertige et vomissaient. Elle décide de les acheminer à l'hôpital de la Gécamines Sud, à une dizaine de kilomètres de là. Les 2 plus jeunes succomberont 5 minutes seulement après leur admission à l'hôpital. Ils étaient âgés respectivement de 2 et 5 ans. Les 3 autres, âgés de 11, 13 et 15 ans, sont restés dans le coma jusqu'au dimanche soir. Ce lundi matin, ils viennent d'être transférés dans la salle de pédiatrie. Le médecin traitant estime que leurs jours ne sont plus en danger. Quant à la cause de cet intox, le médecin affirme qu'il faut attendre des analyses appropriées du reste de la nourriture par des services spécialisés. Lubumbashi, Donatine Bouge, Radio Okapi.
Toujours au Katanga, mais cette fois-ci au nord de la province, précisément dans la ville de Kalemi. Une dizaine de maisons ont été calcinées samedi dernier dans un quartier populaire de la ville. Tout est parti d'un incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de carburant. Quand bien même les dégâts sont importants, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Une correspondance d'Expédie Mwambamubi.
Les habitants de plusieurs quartiers voisins au quartier Kamkolobondo affirment avoir observé dans le ciel pendant 2 bonnes heures l'après-midi de samedi dernier des gerbes de feu et une épaisse fumée noire accompagnée de fortes explosions. Un incendie venait de se déclarer dans un dépôt de carburant situé au beau milieu du quartier Kamkolobondo, un quartier populaire au sud de la ville. Le dépôt contenait 25 fûts d'essence. Le feu s'est vite propagé à un pâté de maisons. Au total, une dizaine de maisons ont été consumées. L'annonceur de territoire rapporte n'avoir enregistré aucune perte en vie humaine, à part 2 personnes légèrement blessées. Selon notre source, c'est le portable d'un motard venu s'approvisionner en carburant qui serait à la base de l'incendie. Le motard aurait entrepris de répondre à un appel. L'annonceur Lumaliza fustige l'imprudence, mais aussi le non-respect de la loi en matière d'entreposage de carburant. L'autorité n'a pas exclu l'interpellation du propriétaire de ces dépôts. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
La province du Bantoutou maintenant. Tous les hauts cadres des éducations primaires, secondaires et professionnelles de la province sont suspendus. C'est ce qu'indique un arrêté provincial publié le week-end dernier. Au nombre de greffes retenus à leur charge, la mauvaise gestion, Basile Vakumbani.
Au total, 6 personnes, dont 3 inspecteurs et 3 chefs de division provinciale ou proved, sont frappées par cette mesure. Elles sont accusées d'avoir induit l'autorité provinciale en erreur par la fixation des taux de participation élevés à l'examen d'État édition 2007, d'avoir introduit des rubriques budgétaires fantaisistes et de la gestion irrationnelle de frais alloués au fonctionnement de leur secteur. Le quatrième grief, qui ne concerne que la province de Bandundu 3, est celui de n'avoir pas déclaré la solde de 8 760 000 francs congolais qui restait après l'organisation de la session de l'examen d'État édition 2007. Notons que cette décision est le fruit d'un audit parlementaire diligenté dans ses services par la Commission de l'économie et finances de l'Assemblée provinciale. Contacté à ce propos, l'un des suspendus s'est réservé de tout commentaire. Pour leur part, les habitants de Bandundu redoutent que cette mesure ne puisse perturber la rentrée scolaire prochaine dans la province. Mais le ministre provincial de la Santé et Éducation, Dr Philippe Akamituna, précise que ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement du secteur de l'éducation dans la province de Bandundu. Car, ajoute-t-il, les adjoints de toutes les autorités suspendues sont chargés de prendre la relève. Cela en attendant l'aboutissement des dossiers de leurs titulaires respectifs. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
La page internationale dans cette édition du journal. La population somalienne a subi depuis la fin de l'année 2006 des crimes de guerre et des atrocités dans l'indifférence honteuse de la communauté internationale, estime Human Rights Watch dans un rapport publié ce lundi. Dans ce rapport intitulé « Les civils en état de siège à Mogadiscio », l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme incrimine l'ensemble des acteurs du conflit somalien, les autorités de Mogadiscio, les insurgés, mais aussi l'armée éthiopienne. Selon l'ONG, les soldats de l'armée somalienne ont eu tendance à prévenir trop tard les populations civiles des zones de combat, piller des habitations, ralentir l'acheminement de l'aide internationale et maltraiter des dizaines de prisonniers. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal Parler. Merci de nous avoir suivis.